Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Les météorites sont des messagères de l'infini, de la matière, d'origine cosmique.
Un météorite m'a percé le cœur.
RTL. Elles traversent l'atmosphère et peuvent percuter la Terre.
Contact.
Comment naissent-elles et que nous apprennent-elles sur l'univers?
Le 19 septembre dernier, vous l'avez peut-être vu si vous habitez La Rochelle, Rochefort ou Royan et que vous êtes du genre insomniaque. Une météorite a fendu l'atmosphère vers 2h30 du matin. Ça nous a donné envie de découvrir ces cailloux venus du ciel. Bonjour Mathieu Gounel.
Bonjour.
Soyez
bonjour.
Le bienvenu. Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, chargé de conservation de la collection nationale des météorites. C'est dire sur, si vous veillez sur des trésors. Cette météorite qu'on a aperçue en Charente-Maritime, d'où vient-elle ?
Elle vient probablement de la ceinture d'astéroïdes, qui est un endroit du système solaire entre Mars et Jupiter, où sont des milliers, des centaines de milliers de corps qu'on appelle des astéroïdes, qui font entre, disons, un kilomètre et quelques centaines de kilomètres de diamètre. Et de temps en temps, ces astéroïdes se rencontrent. Il y a des collisions absolument gigantesques, extrêmement spectaculaires, qui génèrent des fragments. Et certains de ces fragments arrivent sur Terre, parfois, et on les appelle alors des météorites, une fois qu'elles sont sur Terre.
Cette météorite qui est arrivée en Charente-Maritime, qui a fendu le ciel et qui a fait une lueur comme ça, blanche, quelle était sa taille ?
Alors, celle-ci exactement, je ne sais pas, mais elle était probablement, comme la plupart des météorites, de taille relativement modeste, quelques dizaines de centimètres de diamètre. Et la raison pour laquelle elle a provoqué une lueur aussi grande, c'est qu'elle est arrivée très très vite. Donc les météorites sont des objets, la plupart, relativement modestes, mais c'est parce qu'ils arrivent à 20 km par seconde ou 30 km par seconde sur l'atmosphère terrestre qui provoque cette lumière très très spectaculaire.
C'est pour ça qu'ils font de la lumière, ça ne dépend pas forcément de leur taille, c'est ça ?
Alors évidemment, plus...
Ça joue un peu quand même.
Ça joue un petit peu, ouais. Mais la raison principale, c'est la vitesse. C'est vraiment la vitesse de ces corps. Il faut vraiment se rendre compte, ça fait des dizaines de milliers de kilomètres heure sur l'atmosphère terrestre.
Et peut-être aussi la composition, c'est fait en quoi une météorite ?
La majorité des météorites sont des pierres. Ce sont des pierres assez spéciales, mais ce sont tout de même des pierres. Elles ont pour particularité de contenir beaucoup de métal. Donc, ce sont des pierres qui se distinguent vraiment des pierres terrestres. Et puis, il y a 5% des météorites environ qui sont faites de fer pur.
Mathieu Gounel, est-ce qu'il y a de nombreuses météorites qui arrivent comme ça dans notre ciel, qui nous tombent sur la tête sans qu'on s'en rende forcément compte d'ailleurs ?
Il y en a un certain nombre, il y en a quelques milliers, disons, d'un kilo par an sur Terre, à peu près, pour vous donner une idée. Ce qui est rapporté à la surface de la France fait une ou deux par an. Donc c'est assez peu. Et puis il y en a beaucoup plus de plus petites. Plus on est petit, plus il y en a.
Mais c'est simple. On ne les retrouve pas forcément.
La plupart ne sont jamais retrouvées. C'est-à-dire la plupart des météorites qui tombent sur Terre tombent dans les océans, pour commencer, puisque les océans dominent la surface terrestre. Et puis il y a beaucoup de météorites qui passent complètement inaperçues. Et beaucoup de météorites qui sont complètement détruites lorsqu'elles rentrent dans l'atmosphère terrestre. C'est-à-dire qu'elles se fragmentent, elles se vaporisent et on ne retrouve plus rien au sol.
C'est la poussière d'astéroïdes qui nous tombe sur la tête.
Exactement, ça devient de la poussière.
L'histoire des météorites, on la découvre dans l'exposition Météorites à la Grande Galerie de l'Évolution du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Ça sera jusqu'au 10 juin. Vous conservez combien de météorites ?
Au muséum ?
Oui. Ah oui, pas chez vous.
Non, pas chez moi.
À moins que vous en ayez piqué quelques-unes, mais bon, je vous fais confiance.
On en a on en conserve des milliers au muséum et il y en a plus de 300 dans l'exposition.
Et parmi vos merveilles, la météorite de la Caille, la plus grosse météorite tombée en France, 625 kilos. Beau bébé, hein. On vous raconte son histoire dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Les météorites, c'est le thème de notre curiosité et le titre de l'expo qui dure jusqu'au 10 juin à la Grande Galerie de l'Évolution du Muséum National d'Histoire Naturelle. Son commissaire nous raconte les secrets de ces fragments d'astéroïdes qui fendent l'atmosphère. Mathieu Gounel, alors vous avez une collection magnifique au muséum. Parmi ces trésors, la plus grosse météorite tombée en France, la météorite de Caille ou de la Caille. Alors déjà, pourquoi elle s'appelle comme ça ?
Parce qu'elle provient elle a été trouvée à proximité d'un petit village qui s'appelle Caille dans les Alpes-Maritimes, à proximité des montagnes de Lodiberg, et on donne aux météorites le nom de l'endroit où elles sont trouvées, où on les a vues tomber.
Elle porte tout un petit nom.
Elle porte tout un petit nom. Donc en France, par exemple, on a la météorite de Caille, on a la météorite de l'Aigle en Basse-Normandie, et on a la météorite de la Bécasse. C'est quelque chose un peu avec les volatiles. Est-ce que ces météorites viennent du ciel ? Je ne sais pas. Et toujours est-il que cette météorite de Lacaille a été trouvée au XVIIe siècle, à proximité de ce village des Alpes-Maritimes.
Mais est-ce qu'on peut savoir quand elle est tombée, cette météorite, près du village de
C'est
Caille ?
C'est assez difficile. Il y a quelques mesures qui ont été faites, qui ont l'air d'indiquer qu'elle est tombée il y a plus de 100 000 ans sur Terre. Mais on ne peut pas en dire plus. C'était peut-être il y a 150 000, peut-être 200 000 ans.
Et ce qui est fou, Mathieu Gounel, c'est que cette météorite de Caille est tombée, donc il y a peut-être plusieurs millénaires, on va dire, et elle a disparu. Elle s'est réincarnée en un objet assez étonnant devant une église.
Ça devient mystérieux, là.
Réincarnée, je ne sais pas. En tout cas, pendant longtemps, elle est restée là où elle est tombée. Personne n'y a prêté attention jusqu'au moment où un berger l'a remarquée. Elle a été transportée au village, donc je vous laisse imaginer les difficultés pour la transporter. Ça n'a déjà pas été simple de l'installer dans la salle d'exposition la semaine dernière.
Elle fait toujours 600
fait
et quelques
toujours,
kilos.
626 kilos, ouais. Donc à brasser, c'est pas rien. Ouais. Et donc elle a été rapportée au village. Un maréchal ferrant a essayé de s'en servir pour faire probablement des fers à cheval, des choses comme ça. Et ça n'a pas très bien marché, parce que c'est un fer qui n'est pas si simple à travailler. Et puis la météorite a été abandonnée devant l'église, où elle a servi de banc pendant peut-être des décennies.
Qu'est-ce qu'elle nous dit de l'espace ? Parce que c'est aussi ça, une météorite, c'est un témoignage de l'espace.
Exactement. Les météorites donc, sont effectivement des pierres qui viennent du ciel. Pour certaines, elles ont voyagé pendant très longtemps avant de nous parvenir. Dans le cas de la Caille, c'est plusieurs de dizaines de millions d'années qu'elle a voyagé dans l'espace, entre son astéroïde et la Terre. Et elle nous raconte, comme toutes les météorites, l'histoire du système solaire, l'histoire de la formation des planètes. Donc chaque type de météorite raconte une étape particulière de la formation des planètes.
La dernière grosse chute de météorite a été observée, vous dites si je me trompe, en France, le 13 juillet 2011. Donc c'est vraiment la grosse météorite. Elle est tombée où et elle s'appelle comment ?
Elle est tombée dans l'Essonne à Draveil. Et donc elle s'appelle Draveil, puisque, comme je le disais, toutes les météorites prennent le nom du lieu de leur chute ou de leur trouvaille.
Et elle est tombée sur la maison de qui ?
Alors, elle est tombée sur...
vous voyez venir.
Je vois venir. Elle est tombée... Disons qu'au bout de quelques mois, on a retrouvé un fragment sur le toit d'une dame, un couvreur. On a retrouvé un fragment sur le toit d'une dame qui s'appelait Madame Comet.
Mais non.
Si, c'est Madame Comet. Donc je pense que les météorites ont lu Lacan et qu'elles s'attachent à tomber là où il faut.
Mais est-ce que les météorites, ça tue les gens ?
Est-ce que c'est dangereux ?
Parce que concrètement, on plaisante là, on trouve ça poétique, fascinant, mais on en a un peu peur. On a tous peur de se prendre une sur la tête.
On peut continuer à plaisanter parce que, en définitive, les accidents, les chutes de météorites sont très très rares. C'est-à-dire qu'une pierre qui tombe, une pierre météoritique qui tombe sur quelqu'un, c'est très rare. C'est arrivé, il y a un cas très bien documenté et heureusement la personne touchée a fini avec seulement un hématome sur la hanche. Ensuite, les météorites très très grosses qui peuvent créer des catastrophes globales, ça arrive également, mais c'est extrêmement rare. Hein. C'est sur des échelles de temps de l'ordre du million d'années, donc on n'est pas du tout menacé maintenant.
On n'a toujours pas peur de notre ciel alors, tout va bien.
Oui, mais quand même, là vous nous avez parlé de la météorite de la Caille qui fait 626 kilos, il y a eu beaucoup plus gros, février 69 au Mexique, c'est ça ? C'était quel poids, ça ?
C'était la météorite d'Allende, c'était 2 tonnes environ, et des dizaines de pierres. Parce que très souvent, les météorites se fragmentent dans l'atmosphère, mais il n'y a pas une seule pierre qui tombe, mais vous avez une pluie de météorites qui tombe.
Donc la chance a voulu que ça tombe dans un endroit qui n'était pas habité, qui n'était pas peuplé.
Exactement, ça tombait dans des champs et dans un endroit assez peu peuplé.
Et cette météorite Allende, elle est rare parce que c'est une chondrite, puisque maintenant on avance dans la connaissance des météorites, vous allez pouvoir nous dire ce que c'est, on est prêt.
Très bien, alors la première chose c'est qu'on dit une chondrite et non une chondrite.
Ah, merci. On est là pour apprendre, hein, vous savez.
Et donc les chondrites, effectivement, c'est l'immense
espèce de chondrite.
Je viens de prendre une météorite.
Espèce de chondrite, c'est une
bonne. Rassurez-vous, j'ai un éditeur qui a dit chondrite pendant des mois.
Ça nous rassure.
Bon, on est deux à être ridicules en français.
Donc une chondrite.
Et donc on dit une chondrite, ça vient du grec, du mot chondre. Et donc les chondrites sont.
Et qui veut dire quoi, Mathieu, chondre ?
Alors chondre, en grec ancien, ça voulait dire un petit grain de sel, un petit grain d'encens. Et il se trouve que dans les météorites, il y a ces petits grains, ces petites billes de roche extrêmement rares. Extrêmement précieuses qu'on ne trouve pas du tout sur Terre et qui se sont formées dans les premiers millions d'années du système solaire et donc qui nous permettent de nous projeter en arrière vraiment au premier temps de notre histoire.
Et on va continuer de rêver grâce à vous, Mathieu Gounel. Saviez-vous que la dague de Toutankhamon était forgée en fer de météorite ? La suite à venir sur RTL.
Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter, Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL, première radio de France.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnet, Thomas Hugues.
J'ai répondu météorite.
Jusqu'à 15h sur RTL.
Jusqu'à aujourd'hui, 77 météorites ont traversé l'atmosphère de notre pays. En tout cas, celles qu'on a pu regarder, voir chuter sur notre Terre. On vous dévoile leurs secrets avec Mathieu Gounel, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Ces météorites aujourd'hui que l'on connaît, que les scientifiques connaissent, que vous conservez au Muséum National d'Histoire Naturelle, est-ce que dans le passé, elles faisaient peur à nos ancêtres ?
Les hommes ont toujours entretenu une relation assez complexe et riche avec les météorites. Ils s'en sont servis pour fabriquer des objets précieux comme des bijoux ou des armes. Et puis aussi, on a plusieurs cas très bien attestés de météorites révérées dans des temples, que ce soit au Proche-Orient. Il y a des météorites qui ont été retrouvées, enterrées dans des linceuls, un peu comme des êtres humains aux États-Unis, au Mexique. Donc il y avait vraiment probablement la connaissance que ces objets provenaient du ciel et donc une certaine une révérence à l'égard de ces objets qui étaient admirés dans des temples.
Ouais, vous nous disiez tout à l'heure que la météorite de la caille, 626 kilos tombée donc dans le sud de la France. Il y avait sans doute un maréchal Ferrand qui avait essayé de travailler son fer, mais que c'était pas si facile. Il y a un autre exemple beaucoup plus ancien qui, moi, me fascine. On est en Égypte. Quoi, 4000 ans à peu près avant notre ère, c'est ça ?
Et effectivement, on a retrouvé dans le sarcophage de Toutankhamon une dague à ses côtés. Donc c'était vraiment sa dague, c'était une dague à ses côtés en fer, dont la lame était en fer météoritique. Et alors c'est le plus bel exemple, certainement, d'objets en fer météoritique retrouvés dans un contexte archéologique.
Ça veut dire, pas le seul. Oui, ça veut dire, vous nous décriviez tout à l'heure les différents, la composition des météorites, et on est passé assez vite là-dessus, mais vous dites que certaines météorites sont en fer pur.
Exactement. Et c'est le cas, effectivement, de la météorite qui a été utilisée pour fabriquer cette dague. Et avant que les hommes n'inventent la sidérurgie, eh bien, leur seule source de fer était le fer météoritique. Et donc, il était utilisé pour faire des bijoux. On a retrouvé des perles dans des tombes, des outils ou des armes.
Avec, là, on parle d'un pharaon, d'un dieu vivant, avec le sentiment, puisque ça vient de l'espace, d'être évidemment porteur d'une force surnaturelle, j'imagine.
Exactement. Ouais. Probablement, ils étaient tout à fait conscients de la provenance de ces objets et sa possession devait conférer un surcroît de pouvoir et de puissance aux détenteurs.
Mathieu Gounel, vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'en France, en tout cas, les météorites ne tuaient pas parce que souvent, quand elles arrivent dans l'atmosphère, elles sont complètement pulvérisées et donc, à part avoir fait un bleu à une hanche une fois d'un de nos compatriotes, tout s'est bien passé. Et pourtant, on dit quand même que c'est une météorite qui a fait disparaître les dinosaures. C'est pas rien. Est-ce que c'est vrai ?
Alors oui, la météorite sur la hanche, c'était aux États-Unis, dans l'Alabama, et pour la première fois, on va faire d'ailleurs venir cette météorite depuis les États-Unis, qui va pour la première fois sortir de l'Alabama.
Donc on va pouvoir découvrir lors de l'exposition.
On va pouvoir découvrir lors de l'exposition qui commence demain cette météorite de Sylacauga qui est tombée sur Madame Hodges en 1954 dans l'Alabama.
Donc Madame Hodges ne vient pas en revanche.
Madame Hodges ne vient pas. Je crois que depuis, malheureusement, elle a quitté ce monde et elle allait rejoindre
les astéroïdes.
Le monde des météorites.
Vous écoutez RTL.
De 14h à 15h,
la curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Alors, pour ce qui est des dinosaures.
Les dinosaures.
Donc, les dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années, avec 40% des espèces qui peuplaient la surface de la Terre à cette époque. Donc, ils n'étaient pas seuls à vivre ce drame, à avoir vécu ce drame. Cette disparition a des causes complexes, probablement avant une chute de météorites qui a eu lieu il y a 65 millions d'années. Il y avait déjà eu des changements climatiques. Mais ce qui est à peu près certain, on a retrouvé le cratère, c'est que il y a 65 millions d'années, une météorite d'environ 10 km est tombée sur Terre.
Donc au Mexique.
Au Mexique, à cheval sur la péninsule de Yucatan et le golfe du Mexique, elle a créé des dégâts absolument considérables qui ont certainement été fatales à la plupart des espèces.
Ça peut recommencer donc. Vous nous dites il y a pas beaucoup de danger, mais pourquoi ?
Bien sûr, ça peut recommencer, ouais. Mais ça recommence sur des échelles de temps extrêmement rares.
Donc, d'accord.
De tels événements événements surviennent environ tous les 100 millions d'années.
Est-ce que la Terre porte de nombreuses cicatrices de météorites que l'on peut découvrir, qu'on peut aller visiter, dans lesquelles on peut se balader même?
On a effectivement des traces de ces impacts les plus violents. Quand une météorite est très grosse, elle arrive l'atmosphère ne la freine pas. Donc elle arrive au sol avec sa pleine vitesse et elle crée ce qu'on appelle un cratère d'impact. Donc il y a un gigantesque cratère d'explosion et on compte environ 190 de ces cratères sur Terre.
Le plus visible, le plus gros, c'est où?
Un des mieux conservés, c'est pas nécessairement le plus gros, mais un des mieux conservés se trouve en Arizona, il s'appelle Météor Crater. En France, il y a un cratère qui s'appelle Rochechouart.
C'est où ça?
En Charente également.
En Charente, ouais.
Charente-Limousin, et il a été presque entièrement effacé par l'érosion. Donc on ne le voit pas du tout en tant que tel, et il a été repéré grâce à la nature particulière de ces roches qui ont été d'une certaine façon écrasées, concassées, broyées par la météorite.
Je rappelle que vous travaillez pour le Muséum National d'Histoire Naturelle et qu'une exposition sur le thème des météorites, ça dure jusqu'au 10 juin. Allez-y, vu ce que vous nous racontez, ça promet d'être fascinant. Mais quand même, bon, vous nous rassurez, mais moi j'aimerais bien savoir si quelqu'un les surveille, ces météorites. Est-ce qu'il y a un réseau de surveillance, des gens dont c'est le métier?
Oui, alors il y a deux types de programmes de surveillance d'astéroïdes et de météorites. Donc on surveille les astéroïdes, c'est des corps assez massifs, disons à partir de 100 mètres de diamètre, qui sont pas très loin de la Terre. Et ça, on les surveille pour détecter une éventuelle chute qui pourrait être problématique. Et je vous rassure, il n'y en a absolument aucun menaçant à l'heure actuelle. Et puis ensuite, il y a aussi une surveillance du ciel nocturne qui est faite pour détecter des météorites qui tomberaient sur Terre, qui tomberaient en particulier en France. Et ça, c'est plus à but scientifique pour ensuite récupérer les météorites et travailler dessus.
Et ça s'appelle le réseau Fripon.
Oui,
joliment.
Exactement. Il nous plaît bien ce nom-là. Un dernier mot sur l'expo. La pièce maîtresse, l'objet ou la météorite qu'il faut absolument voir.
Je pense, d'une certaine façon, il y en a plusieurs, mais on a déjà parlé de la météorite de la Caille, et je pourrais parler de la météorite d'Orgueil, qui est une météorite qui n'est pas très belle, mais qui a une propriété assez extraordinaire, c'est qu'elle a une composition chimique presque identique à celle du Soleil. Donc ce n'est évidemment pas un morceau de Soleil, puisque les météorites sont solides et le Soleil est gazeux, mais en revanche, c'est probablement une météorite qui a le mieux conservé le matériau originel à partir duquel les planètes se sont formées.
Merci beaucoup. Mathieu Gounel. Alors cette exposition, elle est à la Grande Galerie de l'Évolution du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, c'est jusqu'au 10 juin 2018, et puis si vous n'avez pas la chance de pouvoir vous déplacer et voir ces météorites, vous pouvez les admirer dans ce livre, Les belles histoires des météorites, très joli livre aux éditions Flammarion, Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci Mathieu Gounel et bonne exposition à vous.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.